Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
C'est parti, la course d'élan pour Olise enroulé. Oh, quel but! Superbe but! Son premier but en bleu pour Michael Olise. Il a caressé le ballon, il a été tout simplement précis avec la puissance qu'il fallait pour ouvrir le score. 1-0 pour l'équipe de France.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
Eh oui, ramenez la coupe à la maison, 19h02, elle arrive la coupe, lundi matin, elle sera sur Paris, elle sera en France, dans tous les cas, du moins on le souhaite, on est avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron, dans Rotten sans flamme. On a une magnifique semaine, déjà à commencer par ce match demain soir, France-Espagne. On en a parlé dans la première heure, on remercie Julien Escudé aussi d'être venu dans Rotten sans flamme. Donc si vous avez raté la première heure, que vous venez juste de mettre la radio, et bah écoutez, restez avec nous, on est là jusqu'à 20h, et surtout abonnez-vous à la chaîne Rotten sans flamme, comme ça vous avez accès à tout, toutes les grandes interviews, les grandes analyses de Eric Dugas et de toute l'équipe de Rotten sans flamme. Voilà, mais la deuxième heure elle est magnifique.
À 19h45 on va commencer les bilans de cette Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes comme Christophe Dugarry et que vous êtes convaincu par ce format à 48 équipes? Venez nous le dire au 32-16. À 19h30, la VAR, est-ce que l'embrouille Bellingham-Tourelle est anecdotique? On embrasse Louis Gerbier, il n'y a plus de quiz, effectivement. Ouais. Il sera là à la rentrée, d'ailleurs, Louis Gerbier, ou pas?
Oui, oui.
Ah oui,
ouais.
Ah, tu l'as confirmé?
Ah bah, j'avais pas le choix, de toute façon.
Pourquoi t'as fait ça?
Il m'a supplié.
Ah d'accord.
Il m'a supplié.
Bah, ça suffit?
Ouais.
Ok.
Ouais, bah, j'ai un peu de pitié.
Ouais, ouais. Donc, on parlera de cet embrouille Bellingham-Tourelle à 19h30, mais tout de suite... Reparlons de l'équipe de France, parce que, vous le savez, on est tous fous de Michael Olise.
Je suis fou.
Michael Olise entre sur le terrain avec la volonté de faire mal.
Michael Olise, il la glisse, à Barcola la frappe et le but.
Ce que Michael démontrait à l'entraînement révélait beaucoup de choses.
C'est ce que j'ai dit aussi, quand il se sent pécho.
Il a un jeu où il aime la dualité, il provoque.
Olise le crochet pour Kylian Mbappé. Allez, pourquoi pas le doubler? La frappe de Mbappé.
Il dribble et il s'expose donc à prendre des coups.
C'est lui qui est joli, qui trouve ce qu'il faut trouver comme solution. Balle au pied, les passes, pour moi c'est un génie.
Avec Olise à nouveau, la tentative de frappe ou pas de la part de Michael Olise, qui enveloppe. Oh là 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 là.
Lui se relevait, il revenait défendre, il restait combatif et compétitif.
Les gestes sont dans l'aisance, d'une facilité, d'une décontraction.
Quand Michael touche le ballon, passe beaucoup de choses. Et c'est lui qui alimente aussi les joueurs offensifs.
Et quand vous avez cette attitude-là, au moins vous allez au plus haut.
Et attention, le retour des Dolizé. C'est pas fini.
J'en veux encore.
Voilà. RMC, et... intégrale Coupe du Monde.
Je suis.
Allez. Non, parce qu'après c'est des dossiers, vous me les ressortez, donc.
Et alors?
Je ne chanterai plus.
Eh ben, c'est voilà. Ça qui est bon.
Ah, je ne chanterai.
Et tu veux pas remplacer le chanteur d'Osiris de temps en temps? Tu veux pas aller à la Bouilladis vendredi, non? Ça ouais. T'intéresse pas?
Mieux pas l'écouter. Hein,
que... Non, c'est bon.
Bah, c'est un peu mais, le point faible.
Attention,
d'Osiris,
Axel c'est un monstre. Hein.
Ah oui, Axel, c'est vrai.
Mon chanteur, ouais. C'est un monstre.
Voilà. Non, il y a ouais, un bon bassiste.
On l'embrasse. Axel.
Bon, bref, on l'embrasse quand même.
Ouais.
Parlons donc de la révélation.
On va aller au bout au concert parce qu'il fait tellement chaud que là, il est cramé là.
La révélation française aux yeux du grand public, c'est donc Michael Olise, meilleur passeur de la Coupe du Monde. 5 passes décisives déjà pour Olise, 24 ans. Il sort d'une saison monstrueuse avec le Bayern et il va passer demain un véritable test face à l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Valentin Jamin en direct de Dallas. Salut Valentin.
Salut à toutes et à tous. Très très déçu de ne pas avoir entendu Jérôme chantonner. Je ne vais pas vous mentir.
Tu veux essayer toi Valentin de chanter?
Non.
Ah non, mais non, après on va me comparer à Jérôme, ça va être honteux. Donc,
c'est honteux, vrai, voilà. Ouais, okay. C'est vrai.
Bon, parle-nous plutôt de Michael Olise, de sa place dans le jeu et dans le groupe de l'équipe de France.
Écoute, tu l'as dit déjà, c'est le meilleur passeur du tournoi. Michael Olise, 5 passes décisives et aucune d'ailleurs depuis le 16e de finale. Mais il a donc cette grande influence offensive que tout le monde a remarqué. En plus de l'aisance, il joue toujours la tête levée, facile avec le ballon. Dans les stats, c'est le Français qui casse le plus de lignes par la passe. C'est l'offensive tricolore qui réussit le plus de transmissions. Celui qui, derrière Kylian Mbappé, offre le plus de solutions. Et tout bleu confondu, messieurs, c'est tout simplement le joueur qui court le plus sur le terrain. Il y a énormément de boulot plutôt défensif également de Michael Olise. J'ai en mémoire un repli sur Amin Sbahi contre le Maroc alors que le score est fait dans le temps additionnel. Donc pas forcément que des actions qui se voient, mais il est très important. Ces derniers jours, peut-être pas aussi clinquant donc que Mbappé ou que Dembélé qui marque, mais au milieu, c'est lui qui conserve les ballons, c'est lui qui élimine, c'est lui qui lance les attaquants et qui domine donc bon nombre de catégories statistiques. Il se sent bien, tu parlais de l'intégration dans le groupe, il se sent bien avec l'équipe de France. D'ailleurs, à la table, il est à côté de Dembélé et de Mbappé, c'est quand même pas anodin. On le voit beaucoup sourire, il s'est bien intégré, notamment aussi avec la génération Jeux Olympiques. Son attitude fait un peu rire ses coéquipiers aussi, puisqu'il est un petit peu nonchalant et tout le monde répète qu'ils sont admiratifs du talent de Michael Olise. Le petit hic peut-être, et on pourrait comprendre, vous qui avez été joueur, notamment Jérôme, toi offensif, la frustration. Il a mis 22 buts cette saison, il n'a pas encore marqué sur la Coupe du Monde. On a l'impression que ça le titille un petit peu, mais c'est peut-être, voilà, après avoir touché le poteau, la seule petite chose qui manque à un Michael Olise qui fait une très grosse Coupe du Monde.
Merci Valentin, Roten se chauffe, reste avec nous. Valentin, est-ce que cette demi-finale va être déterminante dans la carrière d'Olise, 32-16? Parce que on parle de vrais tests du gars en salive d'avance depuis des mois, voire des semaines, voire des jours. Jérôme, pour Olise, est-ce que c'est déterminant demain?
Non, mais bien sûr que c'est déterminant, parce que quand tu brilles en Coupe du Monde et que tu fais gagner l'équipe de France et que tu permets à l'équipe d'aller loin dans une compète comme la Coupe du Monde, forcément on va retenir après les joueurs qui t'ont permis de faire ça. Il a été incroyable sur le début de compétition, en effet Valentin l'a bien dit, sur les deux derniers matchs c'est un peu décevant, mais c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, il y en a d'autres qui prennent le relais et moi je lui en veux pas, et c'est pas pour autant que je vais dire que Olise c'est un joueur moyen, après tout le bien à juste titre que on a constaté son talent et depuis 2 ans au Bayern, tu vois, que 2 ans au Bayern, mais qu'est-ce qu'il a fait, quoi, tu vois. Donc,
même dans les grands matchs.
Donc, mais de toute façon, le talent, il l'a. Donc aujourd'hui, si on te dit, oui, en équipe de France, il brille que sur les petits matchs, c'est dégueulasse de dire ça, parce que c'est pas le cas. Par contre, après, en effet, des matchs qui comptent, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, à ce que je sache.
Eh oui.
Donc quand elle arrive devant toi, vaut mieux saisir l'opportunité, parce que tu sais jamais dans 4 ans où tu vas être, dans quel état tu vas être, et surtout quelle équipe tu vas avoir avec toi. Parce que tout seul, un joueur offensif, il n'existe pas. Il lui faut un collectif très fort. C'est le cas. Il y a tout qui est réuni pour que Olise aujourd'hui, plus l'entraîneur qui est aujourd'hui un peu poussé vers l'offensive, Didier Deschamps, et ça, comme Dugas le disait tout à l'heure, c'est un peu contre nature, tu vois, pour lui, pour l'instant, sur ce qu'on a vu en équipe de France. Donc lui, il doit profiter de tout ça. Et en effet, les matchs qui comptent, si tu veux marquer l'histoire de l'équipe de France, pour répondre à ta question, c'est pas parce que demain il se rate. Imagine l'équipe de France, elle se fait éliminer, qu'on dira, oh bah Olise, laisse tomber, c'est passé. Mais le train, il passe, ouais. Tu vois. Et en effet,
à l'inverse, le train de l'équipe, demi-finale.
Le train de l'équipe de France, si tu veux marquer les esprits,
ouais.
Des grands joueurs, il y en a eu beaucoup, toutes les générations. On a quand même un pays qui a fait et on a la chance d'avoir toujours des stars. Toutes les grandes compétitions, on a au moins une star. Alors là, en ce moment, on en a plus qu'une, tu vois. Donc tant mieux. Eh ben écoute, qu'on profite, parce que on est vraiment des enfants gâtés de ce côté-là. Eh ben Michael Olise, il doit saisir l'opportunité demain de briller, d'emmener l'équipe de France en finale. Et s'il brille pas demain et que demain c'est Mbappé ou c'est Dembélé qui te permet, voire Doué ou Barcola, parce que ça peut être un de ces trois-là, qui te permet de passer en finale, automatiquement, si tu veux marquer la compétition et l'histoire de l'équipe de France, il faudra que tu sois décisif sur la finale. C'est tout. Après, s'il l'est pas et que la France est championne du monde, on dira bravo, fantastique, mais ça sera l'équipe de France, pas forcément d'Olise, ça sera l'équipe de France de Kylian Mbappé, de Dembélé ou de ceux qui ont fait gagner. Ouais. Comme en 98, Dugas, il va pas me dire le contraire. Zinedine Zidane, il a quasiment pas existé avant la finale. La finale, il a mis 2 coups de boule. Qu'est-ce qu'on a dit? Zidane, c'était celui qui était en avant sur l'Arc de Triomphe.
Ouais.
Eh ben écoute,
Dugas,
moi je souhaite que par rapport à tout ce qu'il représente, toute l'humilité qu'il a,
il confirme.
Et puis la qualité, la magie qu'il a dans le pied,
bah oui.
Je souhaite qu'il soit bon demain ou en finale dimanche.
Dugas, est-ce que cette demi, elle est déterminante pour lui?
Bah, pas que pour lui, pas que pour lui. Après, c'est une génération dorée. Voilà, je pense que lui, comme beaucoup d'autres, on va les voir pendant plusieurs années pour notre plus grand bonheur. Après, j'ai envie de dire, pas que lui. Là, ça y est, les choses sérieuses commencent. Donc, tu vas jouer contre des adversaires de qualité, les meilleures équipes du tournoi. Voilà, que ce soit l'Espagne là ou après l'Argentine et l'Angleterre. Donc il faudra que les 11 Français qui seront titulaires avec les remplaçants soient tous très bons. Si tu veux aujourd'hui battre cette Espagne, même si tu parais meilleur, il va falloir que tes meilleurs joueurs et même les autres soient à leur meilleur niveau. Tu pourras pas te permettre d'avoir un digne moyen, un Olise pas à 100% ou un peu moyen aussi, Dembélé trop effacé, voilà, il y a ou un Tchouaméni pas suffisamment impactant. Enfin voilà. Chacun va devoir jouer son rôle. Maignan décisif, voilà, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Alors on peut toujours mettre en avant Olise, pourquoi pas. C'est peut-être il y a parce qu'il est un peu moins bien c'est sur ces deux derniers matchs. Bon, un joueur qui est tout le temps décisif, tout le temps performant.
C'est ton meneur de jeu, du gars, c'est pour ça qu'on parle de lui. Ça n'existe pas.
Oui, mais le travail, même s'il est moins resplendissant sur ces deux derniers matchs, le travail de meneur de jeu, les efforts, il les fait, il est toujours omniprésent. C'est comme Dembélé, on a dit au bout d'un moment, il est moins décisif, mais son travail défensif, il le fait, il est concentré, il est appliqué, le travail collectif est présent. Donc voilà, après tu peux toujours avoir envie que Olise soit toujours soit encore plus dans la lumière. C'est un joueur qui sait ça parfois se cacher, parfois être modeste dans son jeu, et qui sur un coup d'éclat, comme Yamal, comme plein d'autres, est capable de faire la différence. Il fait partie des grands joueurs de ce match. Donc voilà, à tout moment, il est capable de faire la différence. Est-ce que ce sera là ou en finale? Je n'en sais rien, mais est-ce que c'est si important que ça aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que pour battre cette Espagne-là, il faudra que tout le monde joue un excellent niveau. Il ne faudra pas de joueurs. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui passent à travers. L'Espagne, ils vont exploiter le filon. Et ce match, on ne va pas le gagner. Donc voilà, c'est
non, mais en fait, Dugas, c'est parce que. On pose cette question parce que on a tous été séduits par le début de compétition d'Olise, et à juste titre on disait on parle beaucoup d'Mbappé, on parle beaucoup de Dembélé ou des autres, mais c'est Olise le maillon fort, tu vois, et c'est lui qui fait le relais entre le milieu et l'attaque. Et en effet, on part du principe que si ça a été le cas en début de compétition, on a envie que ça soit lui qui prenne les clés du camion. Et si c'est moins le cas, comme tu le dis, c'est pas forcément problématique, parce que il va faire des différences. Bien sûr que si t'as un petit Olise demain avec un petit Dembélé, je pense que tu vas galérer, vraiment. Ouais. Donc il faudra que tous ces joueurs-là, plus les milieux de terrain, soient à un meilleur niveau. Mais lui, il doit, s'il veut marquer.
Et tu crois que Digne Yamal, ça va pas, ça.
Non,
ça,
mais c'est
ça,
vrai.
Il va pas falloir que.
Oui, c'est vrai.
Le digne Yamal, il peut être plus que décisif, encore plus que peut-être à la performance
c'est vrai.
On en parlera demain, ça d'ailleurs, de ce duel-là, dans le match dans le match entre Digne et la Mini Yamal. Eric, sur Olise, est-ce que c'est déterminant?
Je crois que. Oui, un match de ce niveau-là, une demi-finale de Coupe du Monde, ça peut être le match d'une vie pour n'importe quel joueur. Donc, sauf que on oublie quand même ce gamin, donc les Jeux Olympiques, c'était il y a 2 ans, je me souviens plus.
2024, ouais.
C'est-à-dire que avant les Jeux Olympiques, il y a 80% des Français qui savaient pas qui c'était Olise.
Ah, plus que ça,
vous vous souvenez? Ou peut-être plus de 80% des Français.
Oui, c'est vrai.
Et en 2 ans, ce gamin, il est allé au Bayern. C'est devenu un joueur très important du Bayern, un joueur très important de l'équipe de France. Donc, écoute, c'est là. Quel âge il a, Benoît?
24 ans.
Donc, pour moi, à 24 ans, c'est l'avenir de l'équipe de France. Alors, il y en a plein qui sont l'avenir de l'équipe de France, parce que je crois que Doué est pas beaucoup plus vieux. Il y en a plein. Donc,
plus jeune Doué.
Mais il n'empêche que il découvre sa première grande compétition. Il vient de digérer sa première grande saison en club où il a éclaté aux yeux du monde, finalement. Enfin, aux yeux de l'Europe, on va dire, aller sur la saison au Bayern, et aux yeux du monde sur la Coupe du Monde. Donc, ça va, quoi. C'est, tu vois, bien sûr que le match est important parce qu'il peut conforter ce nouveau statut, mais on va le voir encore pendant 10 ans à ce niveau-là. Et je peux te dire que même s'il rate ce match-là, on l'aura oublié.
Il y en aura d'autres.
2 ans quand il faudra gagner équipe de France, tu vois. Enfin, il a tellement de talent, il nous tombe tellement de la lune, ce gamin, en plus, que, tu vois, j'ai pas envie de lui mettre ce genre de pression. Voilà.
Non, mais c'est pas une question de lui mettre.
Non, mais je sais que c'est pas une question de mettre, mais bon.
C'est parce qu'on a envie.
Il a une vraie identité.
On se rattache.
Un sacré milieu de terrain.
Non, mais l'histoire de l'équipe de France, l'histoire de l'équipe de France a toujours été fait de grands meneurs de jeu. Tu vois, on a eu Platini, après il y a eu Zidane, Griezmann, il faut pas l'oublier, bien sûr, parce que tout ce qu'il a apporté aussi à l'équipe de France. Donc on a envie que ces mecs, ce mec-là prenne le relais de ces joueurs-là. Moi, je vous le dis, je pensais que Dembélé, dans la position qu'il a au Paris Saint-Germain, axial, pouvait être ce vrai relais.
Contre le Sénégal, d'accord, c'est ça, au premier match.
Ok, bon, Didier Deschamps préfère l'utiliser sur le côté, parce que pour pas contrarier Kylian Mbappé dans l'axe, pas de problème. Donc il a
peut-être
décidé.
Peut-être parce que Dembélé a pas été bon à ce poste-là et qu'Olise est meilleur, peut-être aussi, non? Cette éventualité-là, t'effleures pas le. Non?
Non, parce que pour moi, Olise peut vraiment être un meneur. Du moins, Dembélé a montré que lui, c'est pas forcément le rôle de numéro 10 qu'il veut avec un attaquant devant. Il est habitué à jouer tout seul. C'est pour ça que je te dis ça, Eric. C'est pas que contre Didier Deschamps ou contre Mbappé ou quoi que ce soit. C'est que la formule elle est différente et que là, en effet, on a l'impression quand même que dans cette relation et entre le milieu et l'attaque. Bah, Olise, il a tout pour être le meneur comme l'a été Griezmann à une période, comme l'a été Zidane. Donc on a envie de le voir briller sur ces grands matchs-là et surtout de faire passer le cap à l'équipe de France pour après dire Olise, c'est l'équipe de France d'Olise.
Ouais. Mais tu sais, même Jérôme, dis, ça va même un peu plus loin que ça. En fait, le 4-2-3-1 depuis la fin de l'Euro 2024 coïncide avec l'arrivée d'Olise en équipe de France, parce que Deschamps, quand il a vu Olise, qui jouait d'ailleurs un peu à droite, c'est il vrai. A dit ce sera mon 10, et avec les efforts qu'il est capable de faire, ce sera aussi une sorte de troisième milieu en fait. Et c'est aussi le schéma dont on parle beaucoup, beaucoup retour au 4-3-3 ou pas. En fait, c'est Olise qui a grandement, et c'est ce qu'on nous expliquait à la rentrée, influencé, on va dire, ce choix Didier Deschamps, parce qu'il a vu en ce garçon, un garçon talentueux, et on va pas revenir sur ses qualités offensives.
Et qui court, bien sûr. Ça s'est imposé, c'est pas un choix de Deschamps. Ça s'est imposé naturellement.
Oui, c'est ce que je dis, c'est lui qui a un petit peu forcer ce système, quoi.
Mais c'est pour ça que, on va pas revenir sur le débat de 18h, mais Jérôme, ce que j'avais du mal à comprendre dans ta réflexion de 18h, quand tu disais pourquoi pas un milieu à 3 avec Monet, Tchouaméni et Rabiot.
Ouais. Tu te prives de
Olise. Ah oui, tu mets où Olise dans ces cas-là? Tu mets couloir gauche? Et tu mets qui? Tu mets Dembélé couloir gauche?
Ah non, moi pour moi, il n'y a pas de. Tu mets Olise à droite, tu mets Dembélé dans l'axe avec Mbappé.
C'est ça qui est.
Et donc, à gauche, qui tu mets alors? Tu Mbappé à gauche devant Digne.
Dans le couloir.
Pas dans le couloir, si tu joues à 3, tu mets à.
Non, mais tu as dit une saucisse, tu peux le reconnaître aussi, non?
Pourquoi dire une saucisse?
C'est pas ta première ni ta dernière.
Mbappé à gauche, Dembélé dans l'axe, et Dembélé qui peut.
C'est bien ce que j'ai dit, c'est bien ce que j'ai dit.
Avec Mbappé et Olise à droite, je m'enfonce de quoi, en fait?
Mais non, ils peuvent pas
jouer comme ça.
Mbappé, il a plus joué en équipe de France dans cette position-là. Dembélé, quand il a joué là, ça a pas marché en équipe de France. En club, c'est particulier ce qu'il vit en club.
C'est pour ça que c'est Olise qui t'oblige à jouer à 4 offensifs, en fait. Il
t'oblige à rien du tout. Moi, je pense que contre des équipes qui sont sûrs de leur jeu.
En plus, quel est le troisième milieu qui va être aujourd'hui aussi fort qu'Olise?
Mais non, mais c'est surtout que, Jérôme, toi, tu pars du principe que quand tu as Olise au milieu, tu perds un milieu de terrain défensivement. Mais tu perds pas un milieu de terrain défensivement.
Tu vas mettre Rabiot, Tchouaméni et Koné.
Il va venir donner un coup de main.
Ouais, non, mais d'accord, mais galoper, Eric, c'est pas. C'est
mais
pas,
non, mais il va,
pas
il va jouer.
Va non, mais il va, tu il vas va, pas il va, me comparer. Olise, dans le pressing, dans l'agressivité qu'il peut mettre défensivement à un joueur comme Pedri ou Rodri ou à Olmo qui vient décrocher, tu vois, c'est pas l'impact que peut mettre Koné, par exemple, au milieu de terrain quand tu joues à 3 au milieu. On est d'accord.
Oui, est-ce que tu as besoin de ce joueur en plus alors que tu as Olise qui, lui, justement, va toujours se balader entre les lignes et du coup, qui va changer le jeu de l'adversaire. Parce que c'est plus dur quand même dans l'adversaire quand tu as Olise entre Rodri et David Luiz, par exemple. Fabien Ruiz, si tu as Olise qui se balade là entre les lignes, c'est plus dangereux que d'avoir Koné face à ces joueurs-là.
Mais pour se balader entre les lignes, il faut avoir le ballon. Si tu vois pas le ballon,
pour te balader entre les lignes, il faut justement être entre les lignes à la récupération.
Oui, mais il faut.
C'est là où ils vont être en danger, les Espagnols.
Ben, moi, je pars du principe que si tu subis, et comme tu le dis, tu contres cette équipe espagnole quand tu récupères le ballon, quand tu joues avec Tchouaméni comme un défenseur central, c'est pas le mec qui excelle dans le cassage de ligne, tu vois, en filant le ballon à Olise qui se balade à droite à gauche entre Rodri et Pedri ou Ruiz, tu vois. Donc pour moi, j'avais envie de densifier ce milieu de terrain. Après, offensivement, en effet, on n'a jamais joué comme, du moins jamais joué comme ça. On parle quand même de trois cadors. Donc si tu leur dis aux trois cadors, vous occupez la largeur du terrain quand on perd le ballon, mais après offensivement, comme Didier Deschamps laisse beaucoup de liberté, les gars, faites vos schmilblick entre vous, vous êtes des bons joueurs, vous allez y arriver. Moi, je pense que c'est pas perturbant pour l'équipe de France. Mais après, je suis pas sélectionneur et en effet, comme tu le dis, comme tu dis, Duga et Eric, je pense qu'il le fera pas parce qu'il l'a pas tenté.
Bah ouais.
Mais
t'aurais
pour
bien,
moi, c'est une connerie.
Bien aller voir ça.
Pour moi, c'est une connerie.
Jean-Baptiste au 32-16, Jérôme.
Salut, Jean-Baptiste.
Salut à tous.
Salut, Jean-Baptiste.
Ça va, impeccable, et vous?
Bon, bah écoute, on est en pleine forme. On a hâte d'être à demain soir. Le foot nous manque, hein. Il n'y a plus de match, là. Donc, bon, comment tu vois déjà la lecture de ce match pour toi et puis et la relation avec Olise et l'équipe de France?
Bah, moi, je trouve que si on veut parler du milieu de terrain, parce que ça va être une des clés de ce match-là, c'est que le retour de Tchouaméni, moi, m'envoie le signal qu'on va jouer un peu bas. Et tu le disais tout à l'heure, moi, ce qui me fait peur, s'il n'y a qu'une seule chose qui me fait peur chez l'Espagnol, c'est de les laisser jouer dans un fauteuil au milieu. Je suis d'accord avec toi, Tchouaméni, ça parle pas trop contre-pressing, à la perte du ballon. Je suis d'accord, de toute façon, Tchouaméni, on sait pourquoi il le met, parce que c'est le Alou Diarra, le Patrick Vieira.
Oui, c'est vrai.
C'est la sentinelle. Ouais. Il faut la sentinelle. Moi, mais par contre, en dehors de ça, effectivement, Olise fait beaucoup d'efforts. Moi, ne pas voir Olise marquer, mais charbonner comme il le fait au milieu de terrain, parce qu'il est capable de faire énormément d'efforts, parce qu'on voit des fois que les buts qu'il met pas, ou les passes décisives qu'il met pas quand il est dans un match où il passe son temps à défendre, il nous apporte aussi beaucoup de garanties. Donc, je pense que, il va être un atout important à la perte du ballon, parce qu'il sera tout de suite sur le dos des Pedri, Rodri, de son côté, et effectivement, Rabiot le fera aussi. Moi, ce que j'aimais avec Manu Koné, c'est qu'il était très haut, il venait très très haut récupérer le ballon, dès qu'on avait perdu le ballon.
Eh oui.
Je sais pas si vous avez vu le match, enfin, rappelez-vous.
Non, mais Manu Koné, c'est un box-to-box, hein, il fait
exactement
tout, lui, Manu Koné.
Mais Deschamps, on connaît, voilà, il joue avec ceinture et bretelles, on sait qu'à ce niveau-là de la compétition,
il
va chercher le résultat.
Celle-là, il faut la sortir à ce moment, quand même.
C'est réaliste, il est dans un système qui est nouveau, qui nous procure beaucoup de plaisir parce qu'on voit une équipe de France offensive, mais on n'oublie pas qu'on va jouer une équipe d'Espagne qui est en demi-finale, qui a un gros milieu de terrain, et que ça s'est tricoté tranquillement la balle au milieu, et que ça fait du tiki-taka, des petites passes courtes, et ça va essayer de nous priver de ballon. Donc aujourd'hui, il est un petit peu le cul entre deux chaises, Didier Deschamps. Il voudrait que son équipe continue à jouer offensivement, mais il ne voudrait pas non plus être démuni au milieu de terrain. Donc si Tchouaméni lui apporte cette assurance, tant mieux.
C'est le titulaire au départ, c'est le vice-capitaine, les gars.
Ce qu'il faut, c'est inspirer
la
crainte.
Il sera
aussi
sur le terrain normalement. Non, mais on n'arrive même pas à profiter de notre plaisir, tu vois. C'est bien.
Non, mais on peut inspirer
de toujours trouver quelque chose à redire.
De voir Tchouaméni sur le terrain.
De voir une équipe de France où on se régale enfin et il met quatre attaquants et on trouve encore à le critiquer.
Moi, je comprends pas.
Et à dire, il faudrait mieux le terrain de plus.
Vous me faites délirer.
C'est-à-dire que ça fait 10 ans que Didier là, vous avez critiqué et sûrement à juste titre que le fait que il était prudent, il mettait toujours que ses trois attaquants, il mettait toujours ses trois milieux de terrain pour être ceinture et bretelle et tout. Et quand il a mis quatre, toi, compte Jérôme que j'ai entendu après le premier match, des mecs qui disent mais non, mais il faut plus qu'il mette quatre parce que c'est pas dans son ADN, il n'y arrivera jamais. J'ai attendu chez RMC. Quand même, les gars. Ouais, donc arrêtez peu. Fais-moi jouer bien, moi.
Je suis tout à fait d'accord, Eric, avec ce que tu dis. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, le travail des trois devants au niveau du.
Jean-Baptiste.
Juste une chose. Juste pour vous dire que moi, je suis Eric, j'entends tout à fait tes arguments. Mais ce qu'il va falloir comprendre, c'est que dans ce système-là, le travail des trois devants au pressing, comme ils l'ont fait depuis le début, impliqué à participer. Oui, et ben il va être très important. Non mais je suis d'accord, il le faut, mais il va être important.
Non mais ne mets pas 3 milieux de terrain. Si t'as 3 milieux de terrain, ça sera aussi important qu'il soit bien équilibré. Tout est important. Là aujourd'hui, t'es dans une confiance, t'es dans un plaisir. On regarde l'équipe de France dominée, ultra dominatrice, et on voudrait qu'il soit un peu moins dominateur parce qu'attention les Espagnols. Mais punaise, on s'est tellement fait suer avec Deschamps à s'ennuyer. Mais si c'est un peu ça quand même. Arrêtons, c'est bon.
Mais j'adore l'équipe de France,
Dugas. Dugas, pour te répondre, ou même Eric, parce que Eric, tu mets un taquet gratuit, c'est pas que on critique pour critiquer. Moi, c'est pas une critique. Moi, c'est juste
un sentiment.
Moi, je pense, en effet.
Une inquiétude, mais sois pas inquiet alors. T'inquiète pas, ça va bien se passer.
Non, mais peut-être. Mais je me dis quand même que par rapport, je sais pas, on est aussi là pour essayer de donner une analyse, un avis sur un match avec notre expérience et tout ça. Moi, et pas forcément prendre en compte les choix de Didier Deschamps. Parce que si, comme tu le dis, Eric, on regarde Didier, ben oui, Tchouaméni, c'est son homme de base. Bien sûr qu'il va pas le remettre en question. Ouais. Bien sûr qu'il va jouer. Ça, on s'amuse, si tu veux, un petit peu à essayer de trouver des solutions.
Mais le problème de ce raisonnement, c'est que mercredi matin, si ça tourne mal, parce que tu rencontres une grande équipe, eh ben il y a des mecs. Et je suis sûr que tu en feras partie, parce que je pense que mercredi soir, on sera ensemble. Oui, mercredi soir, on sera ensemble.
Ah bah oui.
Donc je ferai le signe. De quoi
je te le signe, que tu vas dire, eh ouais, il fallait
une semaine
de plus, et j'avais raison, et tout.
C'est un procès d'intention.
Mais ça sera encore une fois, c'est
un procès d'intention. Mais bien sûr que oui, parce que le problème contre l'Espagne,
tu diras ce que t'as pensé du match.
Mais non, mais parce que Eric, ta façon de voir les choses, c'est on change pas une équipe. En gros, c'est on change pas une équipe qui gagne. Pour moi, il y a
non,
pas
non, 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 non.
grosse
pas
connerie
une
que ça.
Qui gagne voilà. Et qui joue bien surtout.
Mais qui joue bien, elle joue bien, elle joue bien. L'équipe de France joue bien depuis deux matchs.
Mais vous regardez tous les matchs.
Merci
mais vous regardez tous les matchs. Vous avez regardé l'Argentine jouer. Vous avez regardé l'Espagne jouer. L'Angleterre jouer.
Mais j'en ai rien à faire de ces équipes-là. On n'en parle pas. On parle d'équipe de France.
On va pas les rencontrer. C'est vrai qu'on va pas les rencontrer pour être champion du monde.
On va pas tous les rencontrer. Ça c'est sûr.
Parce que le mieux pour s'analyser, c'est quand même de se comparer.
D'accord. Donc en gros, quand on gagne, on dit que c'est magnifique. Ok. Bon, bah d'accord.
Non, merci à Jean-Baptiste.
Ceinture
est bretelle,
Jean-Baptiste.
Si. Donc, vous critiquez quand il y a trois milieux, vous critiquez quand il y a deux milieux.
Mais je critique pas. Je donne un avis.
Ce qu'il y a de bien dans le football, c'est que quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu perds. Donc, ben, les mecs, ils diront, mais je l'avais dit.
Pas sûr. Si tu gagnes tous les
jours, il perdra. Vous avez vu, je vous l'avais dit, moi. Voilà. Bien sûr, je vous l'avais dit.
Si demain, on se fait sortir et qu'on se fait manger au milieu, je vous le dirai mercredi, j'avais raison.
Allez, dans un instant. La VAR de Rotten sans flamme. On va revenir sur l'embrouille Bellingham-Tourelle après ce quart de finale remporté par
les
anecdote.
La Casa di Meco. Allez, hop.
Allez, à tout de suite.
Deux étoiles, pizza gratuit.
Ah, magnifique.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jude Bellingham dans la surface de réparation. Oh, Bellingham! Le but anglais! C'est le sang-froid! C'est la classe! De 0-0-7, Bellingham!
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h33 sur RMC, on est toujours dans Rotten sans flamme, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme de ce lundi soir, vivement demain soir. Hein. Il y aura ce France-Espagne, demi-finale de la Coupe du Monde. On est avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. Écoute, on continue, il n'y aura pas de quiz aujourd'hui, malheureusement pour vous, il n'y a pas de cadeau à vous faire gagner, mais on fera le bilan un peu de ce format.
Le format 48, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes convaincu? Nicolas Pelletier sera avec nous. J'ai une mauvaise nouvelle pour Dugas, c'est que Gianni Infantino réfléchit sérieusement à une Coupe du Monde à 64 et peut-être dès 2030.
Oh bah oui. C'est Dugas, obligé de travailler jusqu'à la fin du mois de juillet, ça va durer deux mois la compétition.
Ah ouais, c'est clair. Ah,
j'avais pas pensé à ça, t'as raison. Ah bah oui, il va falloir vite se mettre à la retraite, hein, Dugas.
Non, on vous garde, hein, tu rigoles ou quoi? Allez, tout de suite on y va, 19h34 sur RMC, Jérôme, l'arbitre vidéo t'appelle.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Nous nous sommes rendus la vie très dure aujourd'hui. Le résultat est fantastique, on est dans le dernier carré. C'est incroyable, mais je ne suis pas satisfait de la performance. Un jeu brouillon, beaucoup d'erreurs techniques, pas assez rapide, pas assez répétitif. On a eu de la chance aujourd'hui.
La VAR de Rotten sans flamme.
Voilà le constat de Thomas Tuchel après la qualification des Anglais pour les demi-finales. Victoire 2 buts à 1 face à la Norvège. C'est vrai que dans le jeu, ça n'a pas toujours été génial pour cette équipe anglaise. Ce qui est assez bizarre dans cette analyse, c'est qu'elle n'est pas du tout partagée par les joueurs, notamment Jude Bellingham, qui a encore été le héros anglais. Écoutez comment Bellingham a réagi au propos de son sélectionneur.
Peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est de jouer dans cette chaleur contre Haaland et Odegaard. Moi, je suis fier de mon équipe, capable de résister à toutes les situations. Les gars peuvent être fiers, moi je le suis.
Voilà, il y a une relation un peu électrique entre Tuchel et Bellingham. On rappelle juste que la Coupe du Monde du joueur du Real est magnifique. Hein, 6 buts, une passe D. À eux deux d'ailleurs, Bellingham et Kane ont inscrit 12 des 13 buts anglais depuis le début de la compète. Alors c'est la VAR de Rotten sans flamme, Jérôme. Est-ce que l'embrouille Bellingham-Tuchel est simplement anecdotique ou est-ce que ça traduit un problème et un peu de tension dans ce groupe anglais à ton avis?
Écoute, tension ou pas, ce qui est sûr, c'est que même s'il y a un décalage entre la perception des joueurs et la perception de l'entraîneur, ce qu'il veut mettre en place, certainement, et il a raison, je pense, Thomas Tuchel, de dire que les Anglais galèrent sur pas mal de points et que ce match-là, ils s'en sortent bien. C'est pas grave, t'es entraîneur, t'as une idée sur le match. Tu sens que tu galères sur des choses alors que pour lui peut-être ça paraît simple quand t'es sur le terrain et qu'on a été sur le terrain par moment c'est compliqué hein, de mettre en place ce que veut mettre l'entraîneur.
Mais est-ce qu'il fait bien de le dire comme ça?
Non, après c'est peut-être la maladresse et il y a de l'énervement de la part de Bellingham de toute façon parce que quand les journalistes le relancent t'en fais pas que par rapport à ce qu'a dit Thomas Tuchel. Donc lui il envoie une mine et il se dit bah, écoute moi je suis le maillon fort aujourd'hui parce que j'ai mis pas mal de buts là. Si on est qualifié en demi, c'est grâce à moi avec mon doublé. Il est quand même très épanoui. Donc je pense que quand tu montres autant d'épanouissement dans le sur le terrain, c'est que dans la vie au quotidien, parce que tu passes plus de temps à l'hôtel, dans la vie de tous les jours, et surtout en ce moment avec la Coupe du Monde, que sur le terrain. Donc je pense que l'épanouissement il est total pour Bellingham et ses coéquipiers. Donc je pense que c'est juste une petite mine. Il a une personnalité comme ça, il a ce caractère-là.
C'est pas grave.
Bellingham, moi je pense que c'est pas grave. Du moment que t'as pas que des personnalités comme Bellingham dans le groupe, si t'en as 4 ou 5 comme Bellingham, je pense que pour Thomas Tuchel ça peut être compliqué. Ouais. Là t'en as une ou deux, bah c'est à lui de la gérer. Pour l'instant il la gère bien. Donc pour moi c'est, toi des joueurs dans un groupe, je pense Duga ou Eric, ils ont dû en connaître aussi. Moi j'en faisais partie, j'étais très chiant et pour autant. Non mais c'est vrai, j'étais très chiant, je le reconnais et je le dis. Je dis que si t'avais eu 4-5 mecs comme moi, c'était problématique pour l'entraîneur. Ouais. Bon, bah écoute, et bah peut-être que Bellingham. Ouais, vas-y, les gars.
En plus, Jérôme, il y a des nations pour lesquelles se mettre ce filet sur la gueule et faire des déclarations comme ça pose pas de problème. Ouais, les Allemands, oui. Ils s'enfilent plein la tronche et ils arrivent à jouer avec, ils jouent à rien ensemble. Ben oui. Les Anglais, c'est pareil. Bon, voilà. Je trouve que les deux, ils sont dans une espèce d'extrême. C'est-à-dire que Tuchel, il balance comme quoi. Tu l'écoutes, t'as l'impression qu'ils ont perdu et que tout était catastrophique.
Oui, c'est pas malin, quand même.
Et voilà. Et Bellingham, pour lui, tout était bien, voilà, ou presque. Tu vois. Et il doit y avoir une mesure pour les deux. Et moi, je trouve ça ridicule de cette passe d'armes, elle est un peu ridicule, mais ça montre une mentalité. On n'a pas la même mentalité que les Anglais, les Latins, voilà. Ça sera fait en Espagne ou en France, et bien ça aurait fait un scandale. Les Allemands, ils peuvent se taper sur la tronche, c'est pas très grave. Voilà, je trouve que Tuchel, il doit dire bon, c'est bien ce qu'on a réalisé, je suis fier de mes joueurs, mais ça, on doit l'améliorer. Et la même chose pour Bellingham. Bellingham, il dit voilà, moi, je suis fier de mes joueurs, mais c'est vrai qu'on a aussi des choses à améliorer. Et puis tu fais une espèce de mélange. Et là, t'as l'impression que les deux, ils ont voulu montrer une espèce de force ou de caractère ou de machin, à dire voilà, je vais pas me dégonfler par rapport à ce qu'il a dit lui ou machin.
Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais je suis pas convaincu et persuadé que ça pose des problèmes dans le, dans ce genre de groupe. Mmh. Parce que ces pays, ils ont l'habitude de se filer sur la gueule, après, au pub, avant le match, après le match, tu vois, ça, c'est souvent comme ça, je trouve. Donc, c'est pas très grave, à mon avis.
Eric?
Ouais, alors je suis d'accord sur l'analyse de Tuchel, sauf que je l'aurais pas faite à chaud après le match.
Bah oui.
Et pas aux médias, surtout pas filer à manger aux médias. Je pense que la bonne attitude, c'était celle de Bellingham. Par contre, quand tu sors,
on le sent tendu, hein, Tuchel, hein.
Il a joué sa place, ça fait un moment, hein. Rappelle-toi, il a failli passer à la trappe pendant le tournoi, hein. On parlait de.
Oui, puis ça fait longtemps que Tuchel est dans l'échec quand même en club et tout, voilà.
Exactement.
Oui, oui.
Donc du coup, les joueurs, ils sortent du terrain, ils sont free. Prolongation, tu es pas lucide sur ta performance et tu es surtout content d'être qualifié. Donc je suis fasciné que on aille tendre toujours un micro à la sortie des matchs au mec. Mais qu'est-ce que tu veux raconter? Des fois, je me dis, mais je serai à la place du joueur. Qu'est-ce que je raconterai après un match comme ça?
Mais c'est un bon témoignage à chaud, bien sûr.
Ben oui, ben justement, à chaud. Eh ben, t'es pas lucide. Et
l'erreur, elle vient de Tuchel, pas de Bellingham. C'est différent quand même. Ils ont pas le même rôle. Il y en a un qui est sur le terrain et qui se donne à fond.
Je parle de Bellingham, moi.
Ah oui, c'est pas Bellingham, alors. C'est pas Tuchel, pardon.
Ouais. Ben, je viens de te dire, en sortant du terrain, je suis fasciné qu'on tende le micro sous un joueur qui vient de finir 120 minutes de match. Qu'est-ce que tu veux? Quelle lucidité? Tu es crevé, tu es content d'être qualifié, donc tu vois que le bon dans ce que tu as fait. Ne pas oublier que les Anglais, leur qualification, elle le tient un fil en acier quand même.
Oui,
hein.
Mais les
joueurs, on peut pas leur demander d'avoir cette lucidité-là. Tuchel, il aurait dû juste, attendre un peu le lendemain, petite réunion, analyse du match. Tu dis, bon, mais les gars, franchement, si on veut aller au bout, on peut pas jouer comme ça, et sinon oui. On passera plus. Oui. Voilà, c'est tout. Et tout le monde est content, mais comme l'a dit Duga, je suis pas sûr que ça va poser. Les mecs, tu sais, tu arrives en demi-finale. Les mecs, ouais. ils sont, parce qu'il y a une chose, c'est être champion du monde. Il reste deux matchs. Le coach, à la limite, je vais pas dire que tu fais de l'autogestion, mais tu es dans la phase d'accélération, là. Tu calcules plus et donc ça posera pas de problème et on verra ce qui va se passer pour eux, mais entre nous, il va falloir qu'ils montent leur niveau quand même, hein, les Anglais, hein, s'ils veulent aller au bout.
Oui. Oh, les Argentins aussi, Eric, hein.
Et les Argentins aussi, mais moi, le gagnant entre l'Argentine et l'Angleterre, je m'en saucissonne. C'est surtout que derrière, ils vont avoir un adversaire qui est très supérieur à tout ce qu'ils ont rencontré, que ce soit l'Espagne ou la France, depuis le début là. Et pourtant, ils ont galéré, hein. Donc il va falloir qu'ils progressent, hein.
Ouais. Et c'est mercredi, hein, la demi-finale à 21h, on a hâte de la voir d'ailleurs. Hein,
elle est indécise, hein, quand même. Hein. Elle est indécise parce que l'Argentine galère.
Plus que ça, même.
Lequel va être le plus nul, à ton avis?
Ouais, c'est ça. Bon, la prolongation, c'est fait, non? Enfin, on verra, on aura le temps de
voir. On y va tout droit. De toute façon, ils commencent à être habitués.
Exactement, c'est mercredi, hein, la demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine à suivre sur RMC, tout comme demain, ce France-Espagne, 21h, un Rotten sans flamme spécial des 18h. 19h43 sur RMC dans un instant. On va commencer les bilans de cette Coupe du Monde. On a disputé 104 matchs de cette Coupe du Monde de la FIFA 2026. Christophe Dugarry s'est régalé. Est-ce que vous aussi vous êtes convaincu par le format à 48 équipes? Venez nous le dire au 32-16. On fera le bilan avec Nicolas Pelletier en direct des États-Unis. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 18h20, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Julian Alvarez, frappe enroulé, et le but! Le but! Le but! Julian Alvarez! On va la voir! Angleterre-Argentine, sans doute, en demi-finale de la Coupe du Monde!
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h46 sur RMC, les 10 dernières minutes de Rotten sans flamme du soir, en mode Coupe du Monde. Vous le savez très bien, on est en direct du Flora, brasserie parisienne, dans le 9e arrondissement. Venez nous rejoindre, on est là toute la semaine encore, dernière semaine de l'année. Mais quelle semaine, hein. Avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry ce soir et avec Benoît Boutron comme d'habitude. On va faire le bilan un petit peu de ces phases.
De cette première Coupe du Monde à 48.
Ouais, on s'est régalé. Hein.
104 matchs, déjà 100 disputés. Il manque les deux demi-finales, la finale et le match pour la troisième place. Le temps de faire le bilan. Et on va en parler avec Nicolas Pelletier qui nous rejoint. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Nico. Bon, Nico, avant de parler de ce format et de se projeter pour le plus grand bonheur de Christophe vers pourquoi pas une Coupe du Monde à 64, hein, parce que c'est le souhait a priori de Gianni Infantino, une info importante. Ouais,
et vu qu'il décide tout seul, il fait ce qu'il veut.
Voilà, exactement. Info importante concernant le match de demain et le protocole. La demande a été acceptée, la demande de la Fédération française. Il y aura bien une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016. Les victimes à Nice, 86 personnes. Qui sont décédés ce soir-là. Donc il y aura une minute de silence avant ce France-Espagne demain.
Oui, c'est une demande du maire de Nice, Éric Ciotti, qui avait écrit à la FIFA et à la Fédération française de football pour rendre hommage en marge de cette rencontre entre la France et l'Espagne demain soir. En plus, c'est bien évidemment le 14 juillet, 10 ans après l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice. Et donc, il avait écrit à la FIFA et émis dans la boucle les autorités françaises. Et donc, c'est ce matin Emmanuel Macron qui a tweeté, qui a annoncé que la FIFA et Gianni Infantino avaient accepté cette demande, cette requête de la mairie de Nice. Et donc demain soir, il y aura bien une minute de silence pour rendre hommage aux 86 victimes du 14 juillet 2016.
Bon, reparlons donc de cette Coupe du Monde, cette première à 48 équipes. Et ce qui nous fait peur, je le disais Nico, c'est qu'on pourrait, de toute façon on va y aller forcément, mais vers cette Coupe du Monde à 64. Ce qui peut faire peur, c'est que ça pourrait être dès la prochaine édition. Et ça, c'était pas forcément prévu. Hein.
Oui, c'est un dossier sans fin qui agite fortement tous les membres de la FIFA, parce que je vais vous expliquer, il y a Gianni Infantino qui pousse pour la Coupe du Monde à 64 équipes, mais les plus hauts responsables de la FIFA, c'est-à-dire les personnes qui sont juste derrière lui, ne veulent pas du tout de cette Coupe du Monde à 64 équipes. Et Christophe l'a dit, vu que le pouvoir est très vertical au sein de la FIFA, la décision pourrait revenir seulement à Gianni Infantino, qui se représente l'année prochaine pour un nouveau mandat en 2027, lors de l'élection présidentielle qui aura lieu à Rabat. Et donc depuis plusieurs jours maintenant, il y a un lobbying intense parce qu'il y a Gianni Infantino qui veut cette Coupe du Monde à 64 équipes, mais il y a aussi un homme très puissant au sein de la FIFA, c'est Alejandro Dominguez, qui est le président de la Comebol, la Confédération Sud-Américaine, et qui lui veut absolument beaucoup plus d'équipes lors de cette Coupe du Monde 2030, parce que vous savez, l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay et vont organiser les trois premiers matchs de cette Coupe du Monde 2030, mais lui, il ne veut pas seulement les trois premiers matchs, il veut beaucoup plus de matchs, et vu qu'il est très influent auprès de Gianni Infantino, il pousse absolument pour avoir cette Coupe du Monde à 64 équipes, ce qui n'est pas du tout le son de cloche du côté de l'UEFA, qui ne veut absolument pas de cette Coupe du Monde à 64 équipes, pas du tout aussi du côté de la CONCACAF, où on ne veut absolument pas de cette Coupe du Monde à 64 équipes. On verra si Gianni Infantino arrive à mettre en place cette Coupe du Monde à 64 équipes. Il y a aussi un élément très important, c'est que la Confédération africaine de football est derrière Gianni Infantino pour augmenter le nombre de places pour cette Coupe du Monde 2030. Il y a aussi un élément important à prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont un peu évoqué ça ces dernières heures du côté de la FIFA. On se demande aussi si Gianni Infantino n'a pas ouvert la porte avec cette interview donnée à la presse suisse cette semaine en disant « oui, on va examiner ça dans les prochaines semaines », juste pour dire à la Confédération africaine « vous voyez, j'ai tenté ». D'instaurer cette Coupe du Monde à 64
équipes. Politique jusqu'au bout, quoi.
Okay. Exactement, pour avoir les voix l'année prochaine de la Confédération africaine. Il y a très peu de doutes sur le fait qu'il ait les voix de la Confédération africaine, mais voilà, de dire j'ai tenté, okay. Mais à la fin, l'UEFA, la Confédération asiatique et la Confédération nord-américaine ne voulaient pas, donc j'ai pas pu imposer cette Coupe du Monde à 64 équipes. Donc voilà, il y a un petit son de cloche aussi différent du côté de la FIFA. Il y a un élément très important, c'est si la Coupe du Monde à 64 équipes voit le jour, les qualifications pourraient démarrer dès 2027, parce que il faudra aussi mettre en place des qualifications, revoir tous les calendriers alors qu'ils sont établis jusqu'en 2030. C'est un peu le bazar.
Il y a encore des qualifications.
Ah ouais, celui qui se qualifie pas pour la Coupe du Monde à 64, faut le faire.
Ah ouais, là c'est vraiment
c'est terrible. Bon, alors merci Nico. Faisons déjà le bilan de cette Coupe du Monde à 48, la première de l'histoire. La bonne nouvelle, et on n'arrête pas de le dire d'ailleurs depuis 18h, c'est qu'on a les 4 premiers au classement FIFA en demi-finale. C'est une première depuis la création de la Coupe du Monde.
C'est pas étonnant.
Quel bilan tu fais toi, Jérôme, de cette Coupe du Monde à 48? Est-ce que tu as pris du plaisir
pendant
4 semaines?
Tu sais, moi, je prends du plaisir quand je regarde du football, donc automatiquement, j'ai regardé tous les matchs. Ça m'a toutes les soirées, toutes les nuits ont été prises. Alors c'était intense, hein, et c'est sûr que quand on est comme nous et on a la chance de débriefer comme nous et, tous les jours, il faut mieux regarder l'intégralité des matchs. J'ai pas tout vu parce qu'il y a des matchs, c'était très tard et c'était interminable. Donc ça veut dire aussi que quand j'ai pas tout vu et que tu t'endors sur des matchs, c'est que tu t'emmerdes la plupart du temps. Et c'est vrai que malheureusement, il y a eu trop de matchs où c'était des attaques défense. Le petit défendait son. Alors les gens vont trouver ça magnifique. Oh là là, quelle l'énergie fantastique. Le petit qui a tenu tête au gros. Ah le gros, il y arrive pas. Bah oui, mais parce que franchement, il n'y a pas plus chiant que ce football-là. Entre une équipe qui met un bloc bas et qui défend et qui essaye de contrer une ou deux fois, et puis l'équipe, la grosse équipe qui fait des redoublements de passes et il se passe rien et tu t'emmerdes. Et puis après, à côté de ça, il y a aussi, malheureusement, mais ça, c'est pas lié que au fait qu'il y ait 48 équipes et peut-être 64 après. Je le souhaite pas un 64 parce que alors là, franchement, ça va être horrible. Mais à 48, c'est pas que ça, mais l'accumulation des compétitions, le peu de vacances de certains joueurs. Je pense que certains joueurs l'ont payé et le payent. Et ça joue sur le rythme des matchs. En plus de ça, tu as rajouté sur cette compète la pause fraîcheur qui est incompréhensible.
Ouais. Tu vois, mais ça, plus personne écoute ça, Jérôme.
Non, mais je sais.
Personne n'écoute les joueurs. La seule façon de changer les choses, c'est peut-être les supporters. Parce que les joueurs aujourd'hui, ils n'ont plus leur mot à dire. Ça fait bien longtemps qu'ils se plaignent des calendriers, que personne ne les écoute. Donc c'est là, c'est même plus un argument. Alors c'est un argument, tu as raison. Mais malheureusement, on peut même plus le mettre en avant, cet argument. Parce que tout le monde en a rien à foutre, quoi. En vrai, ils sont bien payés, très bien payés, donc qui jouent, et puis
s'ils peuvent. Ils ferment leur tronche, ouais, t'as raison.
Voilà, exactement. T'as trouvé ça naze, du gars, ce format à 48.
Bon, naze, j'ai pas trouvé ça naze, mais est-ce que vous avez trouvé ça bien? Moi, pour moi, une phase finale, j'ai mes souvenirs d'enfance, voilà, 82, 86, le reste, tout ce qui va avec, je me réveillais la nuit pour voir les matchs, et même les matchs les moins bien, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc forcément, mais là, il y a tellement de matchs que tu les vois ou tu les vois pas, t'en as rien à faire. Voilà, je regardais encore tout à l'heure le parcours de l'Argentine qui va se retrouver en demi-finale, ben super, ils ont battu l'Algérie.
C'est le parcours le plus simple d'un demi-finaliste.
La Jordanie. Le Cap-Vert, l'Égypte et la Suisse. Alors bravo à eux, ils sont en demi-finale. Bravo Messi, bravo tout ce que tu veux. Mais est-ce qu'on s'est régalé à regarder ces matchs-là? Voilà. Bon, les quatre meilleures nations ont répondu, ont su répondre. Écoute, on a répondu présent. Merci à la France, merci à Mbappé, merci à Messi. Voilà, si tu veux, parce que ça a mené un peu de peps à cette compétition. Mais après, cette compétition, malgré tout, aura été auréolée du fait que ce soit. Par moment, il y a des comportements à vomir. Regarde avec ce qui s'est passé avec Balogun, avec le carton retiré, les équipes africaines qui ont été fouillées à la descente de l'avion. Voilà un racisme clairement affiché pour certaines équipes.
Ça c'est fou. Hein.
Décomplexé, c'est fou. Plus que décomplexé. Voilà, ça. Malgré tout, je me serais pas régalé au niveau football et au niveau institution, au niveau exemplarité, elle aura été nauséabonde de cette compétition. Voilà, moi je trouve qu'elle aura donné un très 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 mauvais exemple, très mauvaise image du football, et voilà pour nos jeunes, pour tout ce qui a été renvoyé au moment, ça va être un moment de fête qui unit les peuples, qui unit les nations, parce que c'est ce qu'on veut faire. Et quand tu mets 48 équipes, c'est pour qu'elles s'unissent, c'est pas pour qu'elles se détestent. Eh ben non, ben là t'es accueilli par un peuple qui te veut pas vraiment, qui croit que t'es un voyou, que t'es un escroc, que t'es un bandit, que t'es un immigré, un migrant, ce que tu veux, j'en sais, un trafiquant de drogue, parce que j'ai même vu des joueurs où on les fouillait, parce qu'en imaginant, genre, je sais plus quelle équipe c'était peut-être l'Uruguay ou une autre, j'ai vu, t'avais l'impression que c'était des voyous, les mecs. Enfin, voilà, moi, ça m'a plus souvent donné, mis mal à l'aise que réellement du plaisir, quoi.
Eric, qu'est-ce que t'as pensé du format?
Écoute, je suis partagé, puisque on a fait des débats avant la compétition, et moi, le fait de voir certaines équipes qui n'ont pas accès à cette compétition m'intéressait. Et c'est pas les premiers tours qui m'ont fait changer d'avis, puisque du coup, on a vu des petites nations qui, alors sur des premiers tours, hein, c'est pas les tours les plus importants pour les grandes équipes, elles se préparent pour les pour les tours élimination directe, mais on a vu le Cap-Vert, on a vu Curaçao, on a vu des pays comme ça qui où on se rend compte que malgré tout le football et c'est ce qui me plaît parce que c'est notre sport, c'est le sport de notre vie, Jérôme Dugas et moi, le sport le plus populaire du monde, et j'aime à me dire que ce sport-là se joue dans des pays improbables et de manière professionnelle, c'est-à-dire avec des coachs qui viennent entraîner les mecs, tactiquement ils sont au point, physiquement ils sont au point, alors ils ont un peu moins de talent peut-être, mais en tout cas j'aime ça, j'aime cette notion de sport populaire joué de partout dans le monde. Donc j'avais cette idée-là. Sauf que, à l'usage, malheureusement, et même si justement on a vu des petites équipes qui nous ont étonnés et qui ont fait souffrir des grosses, à l'usage, je me rends compte que il y a eu beaucoup de matchs inutiles. J'ai pas tout vu, surtout dans les matchs de poule. Je peux te dire que j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour regarder les matchs de la nuit ou pour regarder des affiches improbables. Tu vois, voilà, j'ai pas fait d'efforts. Après. Les matchs à élimination directe, oui, le à l'arrivée, les grandes équipes sont là. Écoute, je suis mitigé, voilà. Je suis mitigé parce que quand c'est que l'élite, tu regardes presque tous les matchs et tu te régales. Et là, j'en ai raté pas mal. Mais d'un autre côté, je me dis avec cette formule-là, on a vu des petits pays qui travaillent bien et qui, grâce à cette Coupe du Monde et aux sous, ils vont pouvoir continuer à bien travailler aussi.
Voilà, et on en mettra l'honneur d'ailleurs. On aura un international capverdien d'ici la fin de semaine avec nous à la brasserie qui aura ici dans le 9e arrondissement de Paris. Un grand merci Eric Dimeco.
Merci Eric.
Dans un instant, c'est l'after intégral Coupe du Monde.
Salut messieurs.
Jérôme Dutin, Olivier Chercheur, Kevin Diaz et Daniel Riolo. Et nous on revient demain. France-Espagne demain, Jérôme.
Demain, France-Espagne. Eh ben, écoutez, soyez là au Flora en direct comme tous les jours. Vous le savez maintenant, on vous accueille. On lance ce match, fabuleux match demain soir à partir de 18h dans Rotten sans flamme. France-Espagne, c'est dans Rotten sans flamme que ça se passe. On vous remercie. Et surtout, je souhaite un bon anniversaire à Nicolas Ledru, notre producteur. 40 ans, ça se fête. Quand je plaisante, 30 ans. Mais il a plus de cheveux, c'est pour ça que je vous dis 40. Allez, je vous embrasse. Et encore bon anniversaire, Nico. Bisous.
RMC, jusqu'à 20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.